Une heure en France. Denis Farrow. Frédéric Le Ternier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Une heure en France. Bonjour Denis Farrouf.
Bonjour Frédéric Le Ternier.
Une heure ensemble avec des initiatives et de belles histoires, le tout dans une ambiance de grève.
La Fédération des usagers des transports craint une grosse pagaille et réclame surtout une information fiable sur ce qui va rouler et ne pas rouler le plus souvent en l'occurrence. Nous recevons la vice-présidente de la FNOT.
La conférence annuelle sur le climat se poursuit à Madrid et nous allons dans le Pas-de-Calais chez un agriculteur qui se chauffe grâce à ses vaches. On vous explique comment. On découvre aussi l'initiative de l'association N'est pas que des cajots qui propose de fabriquer un sapin de Noël avec des palettes de récupération.
On va aussi se poser une drôle de question en ces temps froids et agités.
Qu'est-ce qui rend réconfortant les nounours en peluche? Chercheur et spécialiste de psychologie cognitive à l'appui.
Les usagers des transports, les vaches et la géothermie, le sapin en bois et le nounours réconfortant. Voilà le menu de ce mercredi 4 décembre.
Et on commence par les infos du jour avec Boris Allier.
Bonjour Boris.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Les usagers des transports s'attendent donc à un jeudi noir. Arrêtons-nous ce midi sur les revendications des grévistes.
La CGT, l'UNSA, Sud et la CFDT appellent à un mouvement illimité contre la réforme des retraites. En clair, la fusion des 42 régimes et donc la fin des régimes spéciaux, dont celui des cheminots. Un témoignage dans ce journal, celui de Stéphane, salarié de la SNCF, que vous avez rencontré, Tommy Cataneo.
Oui, il est élu à la CGT à Nantes et il est rentré à la SNCF à 15 ans.
Moi, j'ai 43 ans, donc je suis un ancien apprenti du matériel, donc je suis un pur produit du chemin de fer. 27 ans maintenant de boîte avec l'apprentissage.
Il est agent de maintenance sur les wagons TER et il s'occupe de l'aménagement intérieur, sanitaire, porte d'accès à coudoir ou encore housse de siège.
J'ai un salaire en fait à 1900 euros, en fait, avec l'ensemble des primes de nuit et de week-end.
Stéphane peut travailler le week-end, de nuit, en horaire décalé toute l'année et même pendant les fêtes. Et puis son travail est répétitif, mais la retraite des cheminots à 55 ou 57 ans, il a déjà presque fait une croix dessus.
J'étais embauché jeune, non, mais c'est pas avant 62 ans. Voilà, dans l'atelier encore à faire de la maintenance en 3-8 à 62, 64 ans, 65 ans. C'est pas envisageable.
Alors, il fera grève demain pour défendre son système de retraite. Selon lui, c'est aussi un moyen d'attirer les jeunes à la SNCF. Ce n'est donc pas en le supprimant que l'entreprise va régler ses problèmes de recrutement.
Sur une région, il n'y a pas forcément de chômage, je dirais, sur ces métiers. Et donc, on est en concurrence directe avec nos collègues de la TAN ou des chantiers de l'Atlantique ou de la DCN qui cherchent les mêmes profils. Mais ils payent mieux pour des postes de journée.
Stéphane et ses collègues de la CGT espèrent aussi pouvoir revenir sur la fin des embauches au statut de cheminot, une mesure qui doit entrer en vigueur le 1er janvier.
Voilà pour les revendications des cheminots. Sur les rails, ce sera donc très perturbé, un train sur 10 seulement sur le réseau SNCF. En Ile-de-France, comptez 11 lignes de métro fermées une bonne partie de la journée, des RER et des Transiliens au ralenti et dans les airs. La compagnie EasyJet annule 233 vols intérieurs et moyens courriers. Vous avez toutes les prévisions sur francebleu.fr.
Et puis dans les écoles, le ministère de l'Éducation prévoit 55% de grévistes avec un pic à 78% à Paris où seulement 3 écoles pourraient accueillir des élèves.
Bonjour Nicolas Baluch.
Bonjour Boris.
Alors sur le plan politique, on entre dans une séquence de 4 jours, mais dans un camp comme dans l'autre, on anticipe déjà la suite.
Oui, parce que c'est à partir du lundi 9 que les uns et les autres vont vraiment faire les comptes. Pas seulement au nombre de grévistes du jeudi et du vendredi, mais après les rassemblements des gilets jaunes de samedi, ces éventuels violences et ces éventuelles convergences avec les grévistes. Et c'est lorsqu'il faudra recommencer la semaine, donc lundi, que gouvernement et syndicats verront si les salariés reprennent le mouvement, un peu, beaucoup ou énormément, et dans quel secteur.
Mais justement, est-ce que les enseignants seront toujours là, par exemple?
C'est une des grandes questions. Et c'est le même jour ou le lendemain que Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraite du gouvernement, remettra ses conclusions sur la réforme au Premier ministre. Édouard Philippe décidera ensuite des concessions qu'il fera. Pas étonnant donc que le syndicat UNSA de la RATP, par exemple, ait dès hier appelé à, je cite, « une mobilisation de grande ampleur le 9 décembre ». Voilà les données sur le papier. Ça commence comme un conflit social classique, mais avec des colères telles que syndicats et gouvernement ne sont pas sûrs de tout maîtriser.
Analyse de Nicolas Baluch pour France Bleu.
La Fédération des usagers des transports s'attend en tout cas à une journée noire de chez noir pour les commerçants, les artisans, tous ceux qui travaillent demain et n'est pas très optimiste sur un retour à la normale rapide. Nous serons avec la vice-présidente de la FNOT dans un instant.
Ce drame dans le Finistère, les corps d'un père et de ses deux enfants de 11 ans ont été retrouvés à Landerneau à l'entrée de l'association Don Bosco, une association qui s'occupe de jeunes handicapés et où était scolarisé l'un des deux enfants. Le père de famille se serait suicidé après avoir assassiné ses jumeaux. Elle était portée disparue depuis les intempéries du week-end. Le corps sans vie d'une femme de 61 ans a été retrouvé ce matin sur une plage de Saint-Tropez dans le Var. Elle se la porte à 6, le nombre de personnes décédées dans le Sud-Est le week-end dernier.
Plus d'un million de Français réclament un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris.
Le cap symbolique du million de signatures a été franchi selon le Conseil constitutionnel, mais pour être validé, le projet de référendum doit être approuvé par plus de 4 millions de personnes d'ici la mi-mars. Le Paris Saint-Germain affronte Nantes ce soir à 21h en clôture de la 16e journée de Ligue 1 de football. 5 autres rencontres sont à suivre dès 19h et au classement, on le rappelle, Marseille conforte sa deuxième place après sa victoire contre Angers, c'était hier soir. Le temps aujourd'hui, vous serez sous la grisaille dans la moitié nord, en Bretagne et en Alsace notamment. Le soleil, lui, fera son apparition dans le centre et en Nouvelle-Aquitaine. Quelques pluies dans le Roussillon et les températures, ça donne quoi, Denis ?
C'est un peu le grand écart cet après-midi, 2 à 4 dans l'Orne, 10 à 15 sur l'extrême sud. 3 degrés à Maisoncelles dans le Pas-de-Calais où nous allons découvrir un chauffage particulier dans une ferme tout à l'heure. 6 à Brive-la-Gaillarde, 10 à Saint-Gaudens. Merci Boris Allier.
Bonne journée.
Nous allons à la rencontre des usagers des transports.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. France Bleu M. Céline Dion. Perfection. Céline Dion, un coup de cœur France Bleu.
L'invité du Nord en France, c'est une vice-présidente de l'AFNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bonjour Christiane Dupart.
Bonjour.
Nous sommes à quelques heures des premières perturbations. Est-ce que vous estimez que les usagers sont informés correctement sur ce qui va fonctionner ou pas ?
Alors, disons qu'ils sont informés qu'il va y avoir de grosses perturbations. Ça, ils le savent. Ça a été annoncé depuis déjà plusieurs jours. Par contre, de façon très, très précise, ce n'est pas évident partout. Et moi, j'ai encore fait le test dans les Hauts-de-France. Sur le site SNCF, TER SNCF, on nous disait que les prévisions très précises ne seraient données qu'à partir de 17h. Et donc, c'est beaucoup trop tard, puisque normalement, l'information doit être disponible 24 heures à l'avance.
Oui, la SNCF renvoie à son site sncf.com en disant qu'il y aura un TER sur 5 en moyenne, un TGV sur 10, mais sans dire lequel. Vous demandez en fait une information fiable, être sûr qu'un train annoncé va bien partir.
Absolument. Les usagers ont droit à avoir cette information très précisément 24 heures à l'avance pour qu'ils puissent s'organiser, bien évidemment. Et il faut que cette information soit précise, comme on l'a dit, et fiable. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à la gare et qu'ils voient que tout d'un coup, leur train soit supprimé.
Vous vous adressez aux entités, à la SNCF, à la RATP, aux transports publics de ville, pas au gouvernement. Vous n'avez pas de message sur le pourquoi du comment de la grève.
Ah, on a quand même un message, à savoir que là, les usagers vont subir une situation quand même très difficile. Il va y avoir une journée qui va être très chaotique pour beaucoup d'entre eux et que nous pensons, nous, que les négociations sont absolument nécessaires et urgentes pour que les usagers retrouvent une vie normale et nettement moins bouleversée.
Voilà, le message, c'est il ne faut pas arrêter les négociations pour, évidemment, que les contrariétés des usagers durent le moins longtemps possible. En fait, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On risque de reprendre la voiture au moment où tout est fait pour qu'on la laisse au garage.
Absolument, nous sommes inquiets parce que la FNOT se bat pour les transports publics, pour des transports publics de qualité. Il ne faudrait surtout pas que les usagers se détournent de ces transports publics et se reportent sur la voiture. Ce serait très néfaste pour l'environnement et le climat. Donc là, nous souhaitons que le service public, que les transports publics se remettent en marche le plus tôt possible.
À la FNOT, vous êtes optimiste ou pas pour les jours à venir? Vous n'êtes pas Madame Soleil, évidemment, mais comment vous imaginez la situation dans les jours à venir?
Nous pensons qu'elle va rester difficile, mais c'est vrai que c'est quand même très très difficile de pouvoir le dire de façon précise. Ce que nous souhaitons, encore une fois, c'est que le conflit soit résolu le plus tôt possible et en tout état de cause, que les usagers soient informés correctement et aussi, ça il ne faut pas l'oublier, que si le conflit dure, que les usagers soient systématiquement dédommagés en proportion des jours de grève. Et ça, c'est très important pour eux.
Vous nous rappelez l'information que vous nous donniez tout à l'heure à propos de la SNCF. À partir de 17h, il y aura plus de précision sur les trains qui vont rouler ou pas. C'est ce que vous avez vérifié ce matin?
Alors, normalement, c'est ce que j'ai vu sur certains sites où je suis allée. Normalement, à partir de 17h, il devrait y avoir des informations un peu plus précises.
Christiane Dupart, vice-présidente de la FNOT, la Fédération nationale des usagers des transports. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Et la suite du programme d'Une heure en France arrive avec Frédéric Le Ternier.
Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Ternier.
Et on poursuit avec une idée originale d'un agriculteur du Pas-de-Calais. Il a fait de la géothermie grâce à la chaleur de ses vaches et il chauffe ainsi toute sa maison à lui. Résultat, il fait des économies et en plus, la santé de ses vaches ne s'en porte que mieux.
Oui, ce qui est incroyable, c'est que son système fonctionne depuis une dizaine d'années. Ça ne date pas de la prise de conscience écologique, somme toute assez récente.
Ensuite, nous nous penchons sur une étude très sérieuse et tellement craquante. À Toulouse, des scientifiques ont tenté de savoir quel ours en peluche était le plus réconfortant et pourquoi?
Nous serons avec un spécialiste de psychologie cognitive. Après l'histoire du nounours il y a quelque temps, le pourquoi du comment du côté réconfortant. Vous avez un nounours, Frédéric?
Je vous en pose des questions. J'en ai eu un en tout cas. Et puis on termine la saison avec la confection d'un sapin en bois grâce à des palettes. On s'inscrit à l'atelier de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor.
Vous savez comment s'appelle l'association qui initie le projet?
Oui.
On n'est pas que des cajots.
C'est assez décalé et assez humoristique. Une heure en France ensemble, c'est jusqu'à 14h. Bon début d'après-midi sur France Bleu.
Whispers, what you done? Crazy, I bought a gun.
La mauvaise nouvelle, mais très en rythme, de Moon Martin, c'était Bad News sur France.
Nous, on a plutôt des bonnes nouvelles pour vous dans
Une
Heure en
France.
Ah oui,
c'est le principe d'Une Heure en France jusqu'à 14h.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Au moment où la COP25 théorise sur le climat à Madrid et nous incite à moins consommer d'énergie, à nous tourner vers le renouvelable, nous avons voulu prendre un exemple concret de ce qui se fait depuis longtemps dans une ferme du Pas-de-Calais.
Un système de géothermie installé sous la litière des vaches. L'exploitation familiale est chauffée grâce aux vaches.
Nous sommes à Maisoncelles, un village de 127 habitants, avec celui qui a mis en place cette géothermie particulière. Bonjour Étienne Perrin.
Oui, bonjour.
Comment vous est venue cette idée de profiter de la chaleur des vaches pour chauffer votre maison ?
Oh, alors là, c'est un peu étonnant, effectivement. Je pense que l'idée d'être dans les groupes de développement depuis longtemps, où c'est un lieu de réflexion et de remise en cause permanente, ça m'a aidé. On était avant les années 2010, où on parlait pas mal de géothermie, et j'avais fait le constat que sous l'air paillé des vaches, on avait une température importante. J'avais pris cette température et on avait plus de 30 degrés, donc ça m'a interpellé. En ayant une maison juste à côté, de me dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de possible à ce niveau-là?
Et est-ce que vous connaissiez d'autres éleveurs qui faisaient la même chose, ou vous étiez vraiment précurseur à ce moment-là?
Eh ben non, je connaissais personne, c'est bien ce qui m'a un peu embêté dans la prise de risque. Il y avait bien une tentative dans une ferme expérimentale, mais on chauffait qu'un tout petit local, et puis on avait plusieurs moyens de chauffage, dont des panneaux solaires, ce qui ne permettait pas de vérifier la faisabilité dans le temps d'un tel système.
Alors, c'est un système de tuyaux sous la dalle de l'étable. L'eau des tuyaux est chauffée par la présence des vaches, mais vous avez une pompe à chaleur, comme pour un système classique ?
Tout à fait, c'est un système classique. Plutôt que de mettre le réseau de pompage sous la pelouse, on le met sous l'air paillé des vaches. Et donc, voilà, ça permet d'avoir une température d'eau plus élevée, entre 12 et 20 degrés. Hein. Je pompe de l'eau à peu près à 20 degrés, ce qui fait que la pompe à chaleur a moins de travail de transfert de température.
Est-ce qu'on vous a pris pour un fou au début, ou est-ce que les entrepreneurs vous ont suivi avec intérêt?
Alors, c'est pas faux. Mon chauffagiste, il était très très frileux.
Joli.
Et j'ai dû trouver un fabricant de pompe à chaleur qui était prêt à relever le défi. Alors, il n'y avait pas de défi pour eux, parce que le risque, c'est moi qui le prenais, mais qui a dit « chiche, on va le faire ». Et donc, il fallait trouver la personne qui était d'accord pour prendre le risque, mais faire l'essai avec moi, quoi.
Ouais, votre installation date de plusieurs années, pratiquement une dizaine d'années. Vous avez donc du recul. Vous connaissez le montant des économies que vous réalisez chaque année?
Oui, alors on transfère de l'utilisation de gasoil, puisqu'on était sur une chaudière au fioul, en électrique. Donc on consommait, c'est quand même une maison assez importante avec une isolation plutôt moyenne, 3500 litres de fioul. Et aujourd'hui, on est sur 12 000 kilowatts d'électricité pour la même efficacité, voire plus d'efficacité, puisque on pourra en parler après, mais on a plus d'efficacité puisqu'elle tourne plus longtemps dans l'année. Et donc, l'économie est de 1300 euros et puis d'émissions de gaz à effet de serre en moins.
1300 euros d'économie chaque année.
Ça fait également baisser la température du paillage des vaches. Est-ce qu'il les maintient en meilleure santé, c'est-à-dire, Étienne Perrin?
Oui, alors ça, c'était c'est la cerise sur le gâteau, où c'était pas prévu. On avait peur que ça baisse trop fort et qu'on bloque le système.
Ouais.
En fait, le problème du nitière de vache, c'est que, effectivement, le microbille fait qu'il y a une montée en température, par une certaine dégradation.
Mmh.
Et donc, ces températures trop hautes créent un microbisme qui n'est pas favorable chez la vache laitière et qui peut causer des problèmes sanitaires autour de la mamelle, ce qu'on appelle des mammites.
Ouais.
Et donc, ça nécessite des soins. Et force est de constater que, on a inversé un peu cette problématique. La température étant moins élevée, on arrive donc à gérer le microbisme. On gère un microbisme et non pas une destruction de microbisme. Hein. C'est important. Hein. C'est une gestion. Je pense que c'est le caractère important, c'est de pouvoir gérer différemment le microbe. Le microbe est présent partout, mais là, il est contenu, ou j'en sais rien, mais bon. Force est de constater qu'il y a moins de problèmes.
Vous avez combien de vaches, Étienne Perrin?
Alors aujourd'hui, on est avec un troupeau de 50 vaches laitières, à peu près.
Ouais. Frédéric disait tout à l'heure, est-ce qu'on vous a regardé bizarre il y a une dizaine d'années? Est-ce qu'à l'inverse, aujourd'hui, on vient visiter votre installation pour...
s'en inspirer.
Pour piquer l'idée, quoi.
S'en inspirer.
C'est super quand on pique l'idée parce que c'est l'enjeu. Hein, je reviens sur les groupes de développement, mais quand on fait des choses et qui marchent, on les divulgue.
Bien sûr.
Il y a eu quelques visites, mais c'est vrai que c'est pas un procédé qui est toujours facile à mettre en œuvre. Il faut une maison qui est pas trop loin. C'est une remise en cause d'un investissement de départ quand même.
Il faut des vaches.
Il faut des vaches, des animaux en tout cas.
Ouais.
Des vaches, pas forcément, mais des animaux à proximité.
Vous disiez 50 vaches pour chauffer combien de mètres carrés précisément?
Ah, précisément, je ne sais plus, je ne sais jamais, mais...
La maison est grande.
Une grande maison.
La maison est assez grande, avec plusieurs niveaux. Une maison qui a été faite après-guerre, sans isolation. On a isolé comme on a pu, entre deux.
Mmh.
On est à peu près sur des 100 mètres carrés de surface à chauffer, hein, avec les étages.
D'accord.
Voilà, à peu près.
Mais les lapins n'en profitent pas, ça, je le sais.
Comment ça?
Eh non. Alors les lapins, c'était une autre histoire, oui. Mais ça, c'est autre chose.
Oui.
Donc, j'en profite, c'est vrai que de fait, sur l'exploitation, avec cette vision différente aussi, on a pu mettre en place les soins par homéopathie. On est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire on aide l'animal à mieux se défendre plutôt que les antibiotiques, etc. Donc on travaille différemment. Avec une autre vision de l'élevage, voilà.
Bravo pour l'initiative, en tous les cas.
Une maison chauffée grâce aux vaches qui sont à l'étable, et ça existe depuis une petite dizaine d'années chez Étienne Perrin, dans le Pas-de-Calais, à Maisoncelles.
Merci de nous en avoir parlé aujourd'hui, Étienne Perrin. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Et nous jouons maintenant pour une clé USB France Bleu. Vous allez voir, ma question est facile. Comment appelle-t-on le système d'énergie qu'a mis en place notre agriculteur? Est-ce qu'il utilise des énergies alternatives ou des énergies aléatoires? Vous nous appelez 0810 055 056. Ça vous fait rire. J'étais sûre que ça vous fait rire. Les énergies alternatives ou les énergies aléatoires?
Non, mais c'est bien inventé. C'est bien.
Je vous remercie. Dans quelques instants, on va s'intéresser à une étude, mais extrêmement sérieuse, autour des nounours, des ours en peluche. Ça me réjouit, ça se passe à Toulouse. Et puis à 13h45, on va faire nous-mêmes notre sapin en bois. Alors, il va falloir le faire avec une scie, a priori. On va voir s'il va pouvoir rester longtemps, si on peut le décorer.
Il ne perd pas ses aiguilles.
Ça, c'est la bonne nouvelle aussi.
Gamin, écoute, faut que tu saches, on les soit voleurs, soit volés. Et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les ferment, faut jouer des coudes pour exister. Ici, tu gagnes ou tu la fermes, mais laisse-moi te raconter. Petit, regarde cet étang, des familles nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent et dansent dans le vent. Petit, regarde droit devant, des hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent dans le vent. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens,
y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini. Tout est fric et frime, petite gloire. On confond rêve et jalousie. Tout finira bientôt dans le noir. Les gens baissent les yeux ou les ferment. Faut être la brute et le truand. Ici tu aimes ou tu t'enfermes. Ah, tu peux rire maintenant. Petit, regarde cet étang. Des femmes y nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens. Et danse et danse dans le vent. Petit, regarde droit devant. Des hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens. Et danse dans le vent. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Y'a pas que ton frère, que ton frère.
Une chanson sur l'importance de la transmission avec Yannick Noah qui nous revient avec son titre Viens. Pascal, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes en Bretagne, Pascal?
Oui, en Bretagne, dans le Finistère.
Entendu. Quel est le temps aujourd'hui en Bretagne?
Un petit peu couvert, mais dégagé. Enfin, il fait beau.
Bon.
Froid et sec.
Beau et dégagé.
Froid et sec.
Ah.
Voilà.
Couvert, beau, dégagé.
Enfin, mi-couvert, on va dire.
Voilà.
C'est précis. Pascal, est-ce que vous travaillez dans la vie? Est-ce que vous allez être impacté, vous, demain, par ces problèmes de transport, peut-être pour vous rendre à votre travail?
Non, parce que je fais du télétravail, donc
d'accord.
Pratiquement à plein temps.
Ah, donc en règle générale, vous travaillez à la maison de toutes les façons?
Exactement.
Vous faites quoi dans la vie, Pascal?
Je suis informaticien.
Ah oui, donc l'ordinateur...
Quelques déplacements en région parisienne.
Ouais. Mais pas demain.
Pas demain.
Mais pas demain.
Pascal, c'est fascinant hein, ce qu'il a fait notre invité Étienne Perrin avec ses vaches pour chauffer sa maison. C'était assez...
Ah oui, oui, je connais la géothermie, mais pas dans ce concept-là. Je ne le connaissais pas.
Eh bien, on en était au même niveau. On connaissait bien la géothermie.
Mais pas à ce niveau-là. Et surtout, pas à cette époque-là, parce que ça fait quand même 10 ans qu'il a fait ça, Étienne Perrin. C'est assez fou.
Oui.
Pascal, ma question, elle peut prêter à sourire. Comment appelle-t-on le système d'énergie qu'a mis en place Pascal? Est-ce que c'est un système d'énergie alternative ou d'énergie aléatoire?
Énergie alternative.
Ouais, cela dit, les anti-écolos diraient que ce sont des systèmes aléatoires.
Bah, ça marche pas toujours, c'est vrai. Donc c'est la bonne réponse alternative. On vous envoie
ça marche très bien, les énergies alternatives, même en Bretagne.
Ah mais oui, même
sûr.
En Bretagne.
Bien sûr.
Même en Bretagne, le solaire marche très bien.
Ouais. Super.
Mais il faut savoir quand même que le solaire est plus développé dans l'Europe du Nord, alors qu'il y a moins de soleil que dans l'Europe du Sud.
Oui, mais il faut savoir aussi que la production de l'énergie solaire diminue avec la chaleur. Donc en Bretagne, on a moins de chaleur que dans le sud, donc ça fonctionne aussi très bien.
Ah, on sent que vous êtes à fond sur le sujet, Pascal. Effectivement, on sent que c'est important pour vous. Hein. On en parlerait des heures. On vous envoie la clé USB France Bleu. On vous fait une grosse bise, Pascal.
D'accord, je vous remercie.
À bientôt, bonne journée. Au revoir. Et en parlant d'énergie alternative, et le vent, ça marche aussi. Mistral gagnant, Renault arrive dans quelques minutes sur France Bleu.
France Bleu. France Bleu, partenaire du magazine Cuisine et Vins de France et de son nouveau hors-série Les recettes des 4 saisons. De nombreux produits pour chaque saison et aussi comment réussir sa raclette, les astuces pour préparer ses confitures et tout sur le barbecue. Et sur France Bleu, du lundi au vendredi à 10h, on cuisine ensemble. Le plein de bonnes recettes avec Cuisine et Vins de France et avec son nouveau hors-série Les recettes des 4 saisons, disponible actuellement. Toutes les infos sur francebleu.fr.
francebleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu aime la musique live. en français dans le texte.
Parfois, des rencontres, des indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vue suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sort autour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est looké à la lutte et lutte, propre comme un archiduc, oncle Sam me lutte. Hollywood nous perd. La vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns.
Retrouvez MC Solar, nouveau western, dans France Bleu par en live. 1800 secondes de musique vivante.
Miguel is the loveless, loveless.
Chaque soir sur France Bleu, dès 22h.
Un peu de douceur, un peu de tendresse avec Renaud et son Mistral gagnant. Ça tombe bien juste après. On parle des nounours.
C'est réconfortant.
Mais comme les ours en peluche, on verra pourquoi ils nous plaisent autant sur France Bleu.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc. Les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Comptez surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
On se demandait hier dans l'émission d'Arnold Derek, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission, ce qu'était un poète, je crois qu'on peut dire que Renaud en fait partie.
Et on vient de jouer au jeu avec Frédéric. Quelle est ta chanson préférée de Renaud? Moi c'est celle-ci, moi c'est celle-là.
Ah bah dites-nous maintenant, c'est laquelle?
Morgane de toi en ce qui me concerne.
Ouais, moi c'est les Charognards, mais elles sont toutes bien les chansons de Renaud. Et il nous fait plaisir à revenir sur France Bleu avec son nouveau titre Animal, qu'on entendra sans doute dans les prochaines heures sur France Bleu.
Une heure en France, Denis Farrot, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
À Toulouse, des scientifiques tente de percer un mystère. Quel ours en peluche sera le plus réconfortant?
On a pesé les nounours, mesuré la taille de leurs yeux, vérifié la qualité de leur pelage. Mmh. Rien n'a été laissé au hasard.
Et malgré un côté décalé, franchement, cette étude est très sérieuse. Nous sommes avec le spécialiste de la psychologie cognitive de l'université Jean Jaurès de Toulouse. Bonjour Franck Amadieu.
Oui, bonjour.
Alors, dites-nous, racontez-nous, cette étude en partie a été réalisée fin septembre. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quoi ressemble l'ours en peluche idéal?
Non, malheureusement, je vais vous décevoir, on n'a pas encore les résultats. Mmh. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une étude qui a démarré à l'initiative de l'Université de Montpellier.
Mmh.
Et qui a été déployée sur une dizaine de villes en France, donc simultanément. Et donc, nous avons conduit des recueils de données auprès de personnes qui venaient choisir des nounours et on a essayé donc d'identifier les caractéristiques qui expliquaient finalement que certains nounours étaient plus réconfortants que d'autres, mais on n'a pas encore les résultats. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner grand-chose.
Oui, parce qu'il faut le préciser, hein, l'université de Montpellier parle de peluchologie, donc ça existe.
Oui, alors je pense qu'ils ont inventé le nom pour faire découvrir les sciences, justement, et inciter les gens à s'intéresser aux méthodes scientifiques, justement, pour répondre à ce genre de questions qui sont assez amusantes et qui parlent à tout le monde. Mmh. Mais la pulchologie en soi n'existe pas vraiment. C'est simplement inventé pour le jeu de l'expérience.
Ouais, juste sur le site de l'université de Montpellier, hein, si on tape Montpellier pulchologie, ouais, on tombe, ouais, sur l'université, et c'est même la seule au monde à faire de la, voilà, sensibilisation. Expliquez-nous quand même.
C'est, oui, très local.
Oui, c'est local. Expliquez-nous quand même ce que vous avez fait précisément quand on parlait de mesurer la tête, les yeux, mmh, le ventre.
Oui. La qualité du pelage.
Vous avez fait quoi précisément?
Donc nous, l'idée, c'était de montrer un peu aux gens quel était le protocole un peu scientifique pour essayer de répondre à la question. C'est-à-dire qu'on a demandé à des gens donc de choisir des nounours parmi un ensemble de nounours dont on disposait. Certains pouvaient ramener le leur. Et on leur a demandé donc de faire toutes les mesures possibles anatomiques, je dirais, du nounours, à savoir la taille, la circonférence de la tête, du ventre. Expliquer aussi sa posture. Est-ce que c'est un nounours assis, allongé, debout? Expliquer la distance entre les yeux, ce genre de choses, la texture, à savoir si on avait des poils longs, des poils courts, etc.
Mais rassurez-nous, Franck Amadieu, vous n'avez pas dépecé des nounours quand même, vous ne leur avez pas ouvert le ventre.
On aurait pu, mais comme les gens sont dans un usage normal avec les nounours, oui, on est resté sur l'apparence normale des nounours, mais on aurait pu s'amuser effectivement à mesurer par exemple le moelleux du nounours, qu'on n'a pas fait.
Ah oui.
Ah, le moelleux du nounours.
Ça aurait pu être assez amusant.
Ouais. Parce que
on l'a pas fait.
Ce qui nous étonne, c'est que je peux très bien, moi, trouver un nounours réconfortant et Frédéric, pas du tout pour ce même nounours.
Absolument. Donc l'idée de l'étude, c'est pas de trouver le nounours absolu, parce qu'il ne conviendra pas à tout le monde, il n'existe pas ce nounours. Ce qu'on essaie de trouver, effectivement, ce sont les caractéristiques qui sont le plus fréquemment explicatives du sentiment de réconfort chez les gens. Mmh. C'est-à-dire que chez la majorité des gens, on va trouver que ce nounours est satisfaisant, plaisant, alors qu'évidemment, il y a plein de raisons pour que telle ou telle personne préfère un autre type de nounours, parce qu'elle a une expérience particulière avec ses propres nounours étant enfant. Et donc, on a construit un rapport très personnel à l'objet. Donc, évidemment, il y a des différences entre les individus qui sont très importantes.
Bah, Franck Amadieu, justement, les enfants et les adultes ne trouvent peut-être pas le même type de réconfort. Ils n'ont même pas les mêmes attentes avec le nounours en question.
Oui, on peut supposer, en discutant un peu avec les personnes qui ont participé à l'étude, puisqu'après, on faisait des entretiens de débriefing à l'issue des mesures, c'est-à-dire qu'on avait des enfants, puis aussi des adultes, et on a l'impression que les adultes, évidemment, évaluent les nounours sur la base de la nostalgie et du souvenir d'enfance qu'ils peuvent avoir. Alors, ouais, que les enfants, eux, sont dans un rapport plus direct et quotidien aux nounours. Donc, je pense que, tout simplement, on n'est pas tout à fait dans le même rapport à l'objet.
Mmh. Pour ceux qui nous rejoindraient en ce moment sur France Bleu, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter avec un chercheur? Ils parlent de nounours, d'études. Franck Amadieu, l'idée, c'est évidemment d'intéresser le grand public à la recherche, même si cela nous surprend tous.
Oui, exactement. L'idée, c'est d'essayer de voir comment une question de science humaine, notamment, de savoir qu'est-ce que c'est quelque chose de réconfortant, et notamment avec les peluches, comment une question qui paraît aussi subjective peut être investiguée, attaquée du plus objectif, plus rationnel, c'est-à-dire qu'on fait des mesures tout à fait objectives avec des instruments qui étaient les mêmes entre les différentes villes où nous avons fait l'étude. Et nous avons également utilisé des nounours pour les comparaisons qui étaient strictement les mêmes. Nous avions un échantillon équivalent dans toutes les villes, ce qui nous permet ensuite de compiler les mesures et d'essayer de répondre le plus objectivement possible à ces questions. Donc l'idée était bien de démontrer aux gens que même en sciences humaines, même en psychologie, on fait les choses de manière scientifique, c'est-à-dire avec des vrais protocoles expérimentaux.
Franck Amadieu, même avec tout votre sérieux de spécialiste de psychologie cognitive, est-ce que vous avez eu envie de garder un nounours?
Ah oui, bien évidemment. Après,
il ressemblait à quoi celui-ci?
Ouais.
Il ressemblait à quoi le vôtre?
Le mien, je pense qu'il va être assez standard, un peu dodu, plutôt brun et pas très grand.
Moi, il a une oreille qui penche à gauche et il a qu'un œil.
Oui, mais c'est pas un ours, vous, c'est un chien ou je sais pas quoi.
Mais non, pas du tout, c'est mon doudou.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que c'est très sérieux, même en dehors du caractère assez ludique de cette étude.
Qu'est-ce qui rend réconfortant les ours en peluche? Franck Amadieu de l'Université Jean Jaurès à Toulouse, spécialiste de la psychologie cognitive.
Merci beaucoup, belle journée à vous.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Au revoir. Et nous jouons pour une montre France Bleu Sport. En plus, il va y en avoir un des nounours au pied du sapin, j'imagine, pour les enfants. Dites-nous quel est le nom de ce célèbre ours en peluche dont les amis se nomment Porcinet, Tigrou, Bourriquet. On l'a vu dans de nombreux dessins animés. Je suis sûre que vous n'avez pas la réponse, Denis Farou.
Je ne comprends même pas la question.
C'est peut-être pas votre époque. Alors, il adorait le miel, évidemment. C'est normal, c'est un ours en peluche. Alors, porcinet, tigrou, bourriquet, bon, ça sonne déjà. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vous nous appelez 0810-055-056. Oh, oh là là. Un de mes titres préférés, cet extrait de Top Gun, c'est le groupe Berlin Take My Breath Away. Top Gun 2, c'est pour l'année prochaine avec Tom Cruise.
Vous avez
toujours
vu le film.
Je la laisserai jusqu'au bout, j'adore. Take My Breath Away, c'était dans le film Top Gun. C'est le groupe Berlin. Je vous sens un petit peu moins enthousiaste que moi, Denis Farou.
Si, si, j'adore aussi.
Vous avez vu Top Gun ? Ouais, d'accord. Eliane, bonjour Eliane.
Bonjour.
Vous avez vu Top Gun, Eliane ?
Comment ?
Vous avez vu le film Top Gun ?
Oh là là, oui, j'adore.
Ah, voilà.
Je vais prendre un café, je vous laisse toutes les deux.
Une femme de goût.
Tom Cruise a croqué.
Ah ben ça, je vous confirme. Il revient, hein. Il y aura Top Gun 2 l'année prochaine, qui sort l'année prochaine.
Ah oui, mais il a vieilli.
Alors un peu, mais ça se voit pas trop à l'écran. Hein. Vous savez, il y a des bons maquilleurs et des bons effets spéciaux maintenant. Maverick sera de retour.
C'est vrai.
Eliane, on s'emballe, mais dites-nous d'où vous nous appelez.
De la Touraine.
D'accord.
Une petite commune, la commune de Sourigny.
D'accord.
À côté de Tours, une vingtaine de kilomètres de Tours à peu près.
Ok, et vous faites quoi dans la vie, Eliane ?
Je suis retraitée.
Une retraitée heureuse ?
Ah oui, oui, très très heureuse, oui. Très heureuse.
Pleine de projets ?
Je profite de tout, je fais de la marche, je fais beaucoup de jeux. Je profite de la vie, au maximum. J'aime beaucoup les voyages.
Ça s'entend.
Pour la marche, c'est très bien, et notamment pour demain.
Ça peut servir.
Je préfère la campagne.
Ah, c'est ça. Eliane, est-ce que vous savez quel est le nom de ce célèbre ours en peluche dont les amis se nomment Porcinet, Tigrou, Bourriquet, etc.
Bah, Winnie l'ourson.
Bah, Winnie l'ourson. Comment vous connaissez Winnie l'ourson, Eliane?
Oh, bah, j'ai des enfants, on devait avoir des Winnie l'ourson quand ils étaient petits.
Ah, bah oui. Ouais, moi aussi, j'ai eu un Winnie l'ourson qui a beaucoup compté. Juste pour tout vous
et
dire.
Bah oui.
Eliane, on vous offre la montre France Bleu Sport, on vous l'envoie.
Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil.
Merci à vous de votre bonne humeur, de votre gentillesse. C'était un plaisir de passer ces quelques minutes avec vous, Eliane.
Ah, c'est gentil à vous, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
Et continuez comme ça, vous avez des émissions super.
Oh, ça nous fait très plaisir. Merci, Eliane.
Merci, Eliane.
À bientôt. Au revoir, Eliane. Au revoir.
Bonne journée. Bonne journée.
Trois cafés gourmands à suivre. Bah, ça tombe bien, c'est l'heure, 13h46 sur France Bleu.
À votre bon cœur, tout le monde, les gens, à votre bon temps, évidemment. Ce soir, vous pouvez compter sur nous. On sera en retard, mais après tout,
mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi, on a une vie. La, 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 les filles, la bière
et les amis.
À votre bon cœur, tout le monde, les gens, à votre bon temps, bien évidemment. Venez avec nous, on va commencer, et c'est maintenant qu'il faut tout lâcher.
Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi, on a une vie. La, 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 les filles, la bière
et les amis.
Non, 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 nous aussi on a une vie. La, 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 les filles, la bière
et les amis. À votre bon cœur, tout le monde, les gens, à votre bon temps, évidemment. Fin de soirée bien arrosée,
il vaut mieux ça.
Oh bah attendez, on est à l'antenne.
On n'est pas en train d'ouvrir, d'enfoncer une porte ouverte.
Ouais, c'est un petit peu, comment on appelle ça, des conversations de comptoir. Trois cafés gourmands. C'était à nous sur France Bleu.
Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Si ce n'est pas déjà fait, vous allez sans doute acheter un sapin dans les jours à venir. Vous allez dire que l'on cherche la petite bête, mais on a trouvé une alternative. Fabriquer, pourquoi pas, soi-même son sapin de Noël.
L'agglomération de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor organise des ateliers de fabrication de sapins à partir de palettes de bois récupérées.
C'est l'association On n'est pas que des cajots, vous noterez l'humour, qui a lancé l'initiative. Bonjour Anne Cavard.
Bonjour.
Est-ce que vous avez du succès? Est-ce que l'on accepte d'oublier le sapin classique acheté au coin de la rue pour fabriquer un sapin avec des palettes?
Alors on va dire que c'est mitigé pour l'instant, mais ça fait plusieurs années, de nombreuses années même, qu'on propose cet atelier et il marche de mieux en mieux. Donc on peut dire qu'on est plutôt optimiste.
J'ai du mal à me représenter, Anne Cavara. À quoi ça va ressembler? Comment on fait pour lui donner une forme de sapin? On le découpe à la scie? Comment ça se passe?
En fait, nous, on le propose en palette. On travaille à partir de matériaux récupérés. Donc, on le propose à partir de palettes, mais vous pouvez le réaliser à partir de à peu près n'importe quel matériau récupéré. Oui. Le sapin, en fait, c'est un triangle. Une fois qu'on a dessiné notre triangle, on le voit, le sapin, la déco en plus, et puis hop, c'est parti, un peu d'imagination. Mais
faut faire voilà, les branches quand même. Faut faire les branches hein, sur les côtés.
Tout à fait, mais en fait, il y a différentes façons, sortes de sapins, même en palette. Il y en a, voilà, plutôt en 3D, on va dire. Il y en a plutôt en à plat. Il y en a même avec une palette. Vous voyez, vous mettez une palette debout, vous dessinez un sapin dessus. Mmh. Il est là votre sapin, quoi. Il n'y a besoin de d'être très élaboré.
Je comprends l'inquiétude de Frédéric parce que c'est pas facile de fabriquer un sapin. Il faut bricoler un minimum. Il faut savoir scier, découper.
Oui, c'est ça. Alors, oui, ça demande un peu d'organisation. Déjà, faut récupérer la palette et la démonter. Ça, déjà, c'est une aventure en soi. Ouais. Mais une fois que c'est fait, en fait, nous, on utilise dans nos ateliers, à destination des particuliers, des structures, on n'utilise que des outils simples, facilement récupérables on peut se les faire prêter. On a une scie à main. Donc il suffit de prendre le coup de main, une scie à main. On n'est pas obligé de faire un sapin de 3 mètres non plus, hein, ouais. Mais une scie à main, un peu de papier à poncer, et puis on perce des trous pour, par exemple, rentrer une tige à l'intérieur pour pouvoir faire bouger le sapin.
Ah, voilà, vous avez perdu Frédéric. Vous
comment
avez perdu
ça pour
Frédéric.
Faire bouger le sapin, j'ai pas compris.
Ah alors il avance pas tout seul. Hein.
Ah oui non, ça fait peur là.
Non, on peut le tourner pour lui donner une petite forme. Les lattes de palette, en fait, peuvent être posées de façon horizontale. Vous voyez, du plus grand au
top,
au plus petit, voilà. Et en fait, on peut les faire tourner, on va dire, bouger, pour lui donner un petit mouvement, quoi.
D'accord. Et est-ce qu'on peut le décorer aussi, accrocher guirlandes, boules, tout ce qui va bien?
Ah, mais oui, mais bien sûr, on peut le décorer, on peut le peindre, chaque année, on peut même le repeindre d'une couleur différente si on veut, on peut changer les décos à chaque fois, on fait comme on veut et c'est ça qui est bien.
France Bleu Armorique a rencontré deux personnes en train de fabriquer leur sapin chez vous, Anne.
C'est pour montrer aux petits-enfants ce qu'on peut faire avec la récup, quoi. Pas toujours acheter.
Chaque année, j'ai acheté, depuis que mes enfants sont petits, un sapin de Noël que je mets au fond du jardin ne sachant pas quoi en faire. Ça me désole et je trouve que l'idée de récupération est sympa. J'espère que mes enfants adhéreront à cette idée et que j'essaierai peut-être de faire un sapin plus grand pour remplacer le sapin classique que je mettais auparavant dans la maison.
Et oui, l'idée, c'est évidemment d'arrêter d'acheter des sapins chaque année qui finissent au fond du jardin. Est-ce qu'il y a aussi, du coup, cette odeur de bois, Anne Cavard, qui subsiste?
Oui.
Ensuite, elle va vous demander si le sapin en palette perd ses aiguilles.
Non.
Il perd ses écharpes, si vous voulez.
Non, mais est-ce que pour vous, en fait, vous l'avez fait pourquoi au départ, Anne Cavard? Parce que l'écologie, c'est un sujet qui vous tient à cœur ou parce que vous aviez envie de vous lancer?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a...
Pour plein de raisons, mais déjà la première, c'est arrêter de voir les sapins le 26 décembre sur le trottoir, complètement déplumés et tout ça. C'est pas possible d'élever des sapins pour une journée et ils meurent après, non. Après, on a acheté des en plastique. Bon, ben, c'est en plastique, hein, c'est pas la peine d'en parler davantage.
Non.
donc, du coup, il y a d'autres alternatives. Et surtout, c'est la possibilité de faire par soi-même et d'être fier de ce qu'on a fait. Ouais. Alors, c'est plus long que d'ouvrir la boîte et de sortir le sapin ou d'aller acheter un sapin. Ok, c'est une autre démarche. Je dis pas qu'il faut plus acheter de sapin. Nous, c'est notre choix. On a fait le choix de vraiment faire cette promotion-là pour que les gens s'emparent du sujet et voilà, soient fiers d'eux quand ils illuminent leur sapin.
Mais vous en parlez très bien, Anne Cavard. Ça, on a envie de se laisser tenter. Vraiment.
Et si vous fabriquiez vous-même votre sapin de Noël avec des palettes, une initiative de On n'est pas que des cajots dans l'agglomération de Saint-Brieuc.
Merci Anne Cavard et
merci à vous.
Bon Noël à vous un peu en avance alors.
Merci à vous aussi. À
merci,
bientôt.
À bientôt. Au revoir. Au revoir. Angels, c'est Robbie Williams dans Une heure en français, c'est maintenant.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, forsake me. I'm loving angels instead.
J'allais dire que la partie féminine de ce studio était en transe, mais non, notre réalisateur aussi, Christian Pathé, adore cette chanson. On est ravis de refermer Une heure en France avec Robbie Williams et Angels sur France Bleu, un très joli slow. Une heure en France, donc je le disais, se referme. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Denis, rappelez-nous.
Un agriculteur du Pas-de-Calais était avec nous. Il a le sens de la formule. Il nous a dit que son chauffagiste était frileux.
J'ai beaucoup aimé ça.
Mais il a trouvé un système de géothermie où ce sont les vaches à l'étable qui produisent de la chaleur.
Ensuite, on a étudié l'impact des nounours et de leur réconfort.
On a fait dans les sciences humaines aujourd'hui. Avec cette question, certes subjective, qu'est-ce qui rend réconfortant les ours en peluche?
Et c'est très sérieux comme étude. On a souri, mais c'était très sérieux. Les ours en peluche ont été pesés, mesurés. On a tout regardé. Et puis on a terminé, Denis, avec...
Avec le sapin récupéré dans des palettes. Vous
allez vous lancer ou pas?
Alors, une information pour vous, Frédéric. Le sapin en palette ne perd pas ses aiguilles.
Non, puis il ne sent pas non plus le bois. On revient demain à partir de 13h, Denis.
Demain, nous découvrons le parfum de Nantes parce que la ville se cherche un parfum.
À demain, bon après-midi.